parler des brebis. Et pour cela, nous allons prendre Jean chapitre 10. Si quelqu'un a le numéro de page dans les bulles rouges. Page 138. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail, et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau, avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut à nouveau des divisions parmi le peuple à cause de ces paroles. Beaucoup disaient, « Il a un démon, lui, c'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres répliquaient, « Un démoniaque ne parlerait pas ainsi. » Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles ? Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine ? Si tu es le Messie, dis-le nous clairement. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne me croyez pas. » Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Mais elles ne périront, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous sommes qu'un. » Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Jésus leur dit, « J'ai accompli sous vos yeux un grand nombre d'œuvres bonnes par la puissance du Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer à coups de pierre ?» Les Juifs répliquèrent, « Nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes, car toi, tu n'es qu'un homme, et tu te fais passer pour Dieu. » Jésus répondit, « N'est-il pas écrit dans votre propre loi, « Moi, le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux ?» Or, on ne saura discuter des témoignages de l'Écriture. Si donc votre loi appelle Dieu ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu ?» Quand c'est le Père qui m'a consacré et envoyé dans le monde. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire en moi. Mais si au contraire je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres, pour que vous reconnaissiez et que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, les chefs des Juifs tentèrent à nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Donc un très intéressant chapitre où nous voyons donc que le Seigneur lui-même parle des brebis. Le Seigneur, ce bon berger, et il nous parle de ses brebis pour que nous tournions les yeux vers lui, pour que nous soyons vraiment attirés par sa présence. Et nous voyons d'abord donc dans la première partie de ce chapitre le berger qui entre en scène. Le Seigneur est amené ici à prononcer des paroles sévères à l'encontre de ses interlocuteurs. Il venait de se confronter aux pharisiens, les pharisiens bien imbus d'eux-mêmes, de leur personne, de leur autorité, et qui par là même en étaient aveuglés, à la différence de l'aveugle-né qui était l'objet de cette confrontation et qui lui a tout de suite compris qui était Jésus, sans endage, sans en discuter, sans chercher à remettre cela en question. Son discours ici relatif au mauvais berger, celui qui entre par un autre endroit que la porte, c'est un voleur et un brigand. Il fait donc référence au mauvais berger, que les pharisiens connaissaient bien parce qu'ils connaissaient l'Écriture. Et le Seigneur le reproche d'ailleurs de connaître l'Écriture, mais de la tordre à leur profit. Et donc dans Ézéchiel 34, nous voyons donc comment le Seigneur fustige des mauvais bergers. Et qu'il veut donc souligner que ces mauvais bergers prennent à leur profit donc l'argent de ces brebis, leur fait donc faire des choses uniquement pour leur profit, les extorquent et ils les mènent à la mort. Alors, pour nous, faisons attention à suivre la bouvoisse berger. Et le Seigneur ne se trompe pas en disant, voilà, les brebis écoutent ma voix, ils me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle. Ces brebis qui suivent le bon berger. Matthieu peut rajouter, venez à moi vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Voilà donc, à contrario, le programme que le Seigneur nous propose, de le suivre avec ce joug qui est léger, et qu'en fait, nous savons très bien que les fardeaux que nous pouvons avoir, bien c'est le Seigneur lui-même qui les porte. Alors le Seigneur continue en disant, moi je suis la porte. La porte. Il avait souligné juste avant que celui qui entre par un autre endroit, qui escalade le mur, ce n'est certainement pas le berger. Il dit, moi je suis la porte. Alors cette comparaison, comment pouvons-nous la comprendre? Nous savons donc que bien souvent, et surtout à cette époque, le berger pour la nuit se mettait en travers de l'entrée, de la porte, du corral ou de la bergerie, de manière à ce que si un étranger ou un animal sauvage cherchait à entrer, eh bien il était obligé de lui passer sur le corps. Et voilà donc cette porte que le Seigneur nous propose d'être. Le Seigneur Jésus avait dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Jean 6, verset 37. Et comme l'aveugle-né qui vient d'être guéri au chapitre 9, ceux qui croient en lui deviennent les brebis de Jésus. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour elle. qui est ainsi la porte par laquelle peuvent entrer dans l'enclos de Dieu. Alors voilà, le Seigneur donc est la porte, et donc par là même il peut aussi donner le signal de départ. Et nous voyons dans ce chapitre que ces brebis qui connaissent ta voix, eh bien elles suivent le berger. À cette époque-là, bien souvent, donc, c'était des bergeries qui étaient en quelque sorte communales et qui étaient à la disposition de plusieurs troupeaux. D'ailleurs, pour cela, qu'il est mentionné un portier, le gardien de l'enclos. Le gardien de l'enclos lui ouvre et les brebis, donc, peuvent entrer ou sortir à la voix du berger. Donc il y a plusieurs troupeaux dans ce corral. Et quand le berger appelle ses brebis, eh bien il n'y a que celles qui lui appartiennent qui se lèvent et qui le suivent. Les autres, elles ne bougent même pas. Et si vous avez pu donc rencontrer des troupeaux, on peut encore bien le vérifier maintenant. Les brebis reconnaissent immédiatement la voix de leur berger. Et elles le suivent, mais le troupeau d'à côté, eh bien lui ne bronche pas. Et voilà donc, en face du Seigneur, il y avait plusieurs troupeaux. Et c'est pour ça qu'il dit, vous n'êtes pas de mes brebis, qu'il dit aux pharisiens, parce que vous n'écoutez pas ma voix. Vous ne la connaissez pas, vous ne la reconnaissez pas. Donc vous n'êtes pas de mon troupeau. Vous êtes des imposteurs. Alors attention. Si nous ne suivons pas la voix du Seigneur, la voix V-O-I-X, si nous ne l'entendons pas, mais nous avons des questions à nous poser. Sommes-nous devenus sourds? Ou bien n'entendons-nous que la voix de ce monde, la voix de l'adversaire de nos âmes, qui veut nous mener à la perdition? Sommes-nous comme ces pharisiens, imbus de leur personne? Le Seigneur donc nous propose de le suivre. Laissons donc ce berger compatissant et bienveillant conduire nos chemins de vie. Et ainsi donc, il pourra nous conduire aussi à faire connaître ce merveilleux message à qui il pourra donc nous mener. Nous trouvons de quoi nous nourrir à l'intérieur, c'est-à-dire dans la présence intime avec Dieu, par la prière et la méditation de la Bible, l'Esprit Saint nous nourrit de Jésus-Christ, le pain de Dieu. Et à l'extérieur, dans un monde de danger, sous la conduite protectrice du bon berger, nous trouvons la même nourriture que la sienne. Seigneur Jésus avait pu dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, en Jean 4. Quand nous sortons vers les autres pour témoigner de la personne de Jésus, nous sommes rafraîchis suivant la promesse de l'Écriture. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est la vie en abondance que le Seigneur nous propose au verset 10 de ce chapitre. Après avoir donc dit qu'il était la porte, il précise que moi, je suis le bon berger. Et le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Mais celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour le garder, il se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. C'est intéressant à ce propos de remarquer que David, ce premier grand roi d'Israël, comment avait-il commencé sa carrière? En étant berger. Était celui qui gardait les troupeaux pour toute sa famille. Et qu'est-ce qu'il précise? Qu'est-ce qu'il a pu préciser donc quand il a été confronté à Goliath? Eh bien que il avait donc cette arme, cette fronde, pour pouvoir tenir à distance les animaux sauvages, et qu'il s'en était déjà servi avec donc la grâce du Seigneur pour que les pierres touchent leur but. Et ceci a pu se passer aussi pour Goliath, et il l'a vaincu ainsi. Cet ennemi soi-disant invincible, mais qui a été vaincu par David, qui est là une immense image du Seigneur qui a vaincu l'adversaire. sur la croix. Il n'y a pas de Goliath qui soit invincible, mais c'est le Seigneur qui a vaincu la mort, qui a vaincu l'adversaire de nos âmes. Il y a un autre conducteur du peuple aussi, qui a commencé, pas tout à fait commencé, mais avant de pouvoir conduire le peuple, il est passé par 40 années où il a été berger aussi. Moïse. Et lui, donc, il a fait un apprentissage de 40 ans pour pouvoir oublier sa vie précédente, en quelque sorte, pour pouvoir l'effacer, cette vie où il ne maniait que la violence, ce qui l'a conduit à tuer un peu légèrement un Égyptien, même si celui-ci faisait preuve également de violence en ayant donc frappé quelques-uns de ses frères. L'histoire nous dit que Moïse, avant d'être ce berger dans le désert, avait été un général de l'armée des Égyptiens, un général victorieux. Il avait pu mettre en déroute les Nubiens notamment, et préserver donc le territoire de l'Égypte. Et c'est un peu à ça aussi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous emploie quand il nous dit que Moïse donc n'a pas regardé donc aux choses de ce monde, qu'il a laissé de côté pour donc être avec l'opprobre du peuple dans le désert. Il a préféré cela, sachant que cela était meilleur pour lui, pour donc son avenir avec le Seigneur. Et c'est donc ce bon berger que nous avons en face de nous, celui qui connaît ses brebis par leur nom, nous est-il précisé, et qu'il mène donc ainsi dans les bons pâturages. Il précise, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Et voilà, nous faisons partie de ces brebis. Il fait ici allusion justement à ceux qui ne sont pas partis du peuple d'Israël, et dont nous sommes, nous, qui ne sommes pas du peuple juif, du moins, moi je ne le suis pas. Et nous avons donc, comme le dit l'apôtre Paul, été greffés sur cet arbre, et nous pouvons ainsi donc jouir des promesses du Seigneur par le sacrifice de celui-ci à la croix. Les pharisiens avaient été désorientés par la guérison de l'aveugle de naissance, et le Seigneur en a profité pour se présenter comme ce berger, et en faisant allusion au texte d'Ézéchiel que nous avons cité tout à l'heure. En décrivant sa propre activité comme berger, il met en évidence, la différence totale entre les chefs du peuple et lui. Et les pharisiens ne peuvent contester cette prophétie. Alors, quelle est leur réaction? Ils veulent lapider Jésus, et ainsi se débarrasser de son message qui fait tomber leur masque. Et on peut remarquer que quand il lui pose cette question, si tu es le Messie, dis-le-nous clairement, il ne répond pas vraiment à leur question. Pourquoi? D'abord parce qu'il avait déjà répondu, et aussi parce que sa meilleure réponse est de dire, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que je suis, et vous deux serez obligés de constater que je suis bien le Messie, celui qui est allé de lieu en lieu, comme nous le précise Luc dans le livre des Actes, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, ce qui était une des caractéristiques principales du Messie. Il leur demande donc d'observer son ministère, et en effet, celui qui a des yeux simples, qui n'a aucun acquis social, entre guillemets, à défendre, eh bien ce message est limpide. Et les œuvres accomplies par Jésus montrent qu'il est bien le Messie annoncé. L'aveugle ne s'y est pas trompé, lui. Il a tout de suite adhéré au message de Jésus, en disant, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et je le suis, moi qui te parle. Et donc tout de suite, il adore le Seigneur. Ce discours du Seigneur s'adresse également à ses disciples et à la foule qui l'entoure. Tous les Juifs, tous ceux des Juifs qui attendent le berger d'Israël qui avait été déjà annoncé par Jacob en Genèse 49. Il leur décrit l'amour, les soins et la fidélité du vrai berger et la sécurité qu'il procure aux brebis. Et nous aujourd'hui qui avons écouté la voix de Jésus, il nous a donné la vie éternelle. Il est notre bon berger, nous sommes son troupeau, les brebis pour lesquelles il a donné sa vie. Nous nous réjouissons car il nous connaît chacun par notre nom, c'est-à-dire dans tous les aspects de notre être, notre origine, nos faiblesses, nos possibilités, nos sentiments, nos aspirations. Pour montrer quelle est la profondeur de cette connaissance, Jésus la compare avec la connaissance réciproque qui existe entre son Père et lui. C'est une connaissance parfaite. Et nous avons donc en Jésus une sécurité complète. Personne ne ravira les brebis de ma main, dit-il, parce que son le Père qui me les a donnés, et personne ne les ravira de ma main. Et nous voyons donc que là après, il se retire donc de l'autre côté du fleuve, et avec lui tous ceux qui avaient cru et qui désiraient avoir encore plus de contact avec lui. Par contre, les dirigeants juifs ont encore voulu le lapider, et cette fois, pour le motif qu'il se présentait comme le Fils de Dieu. Et là donc, il y a aussi un message qui est extrêmement fort, parce qu'effectivement, dans le psaume 82, il est dit, vous êtes des dieux. Voilà donc le rang que le Seigneur nous donne. Nous sommes des dieux. C'est une chose incroyable qu'on n'arrive même pas à vraiment complètement comprendre que le Seigneur nous donne ce titre. Et nous sommes avant tout des fils de notre Dieu parce que nous avons cru, et nous sommes donc des fils par adoption parce que nous avons été greffés, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sur ce tronc d'Isaïe qui nous permet ainsi donc de pouvoir donc fructifier dans la vigne du Seigneur. Et voilà donc comment le Seigneur répond et à ceux qui l'accusent de blasphème. Ce n'est pas un blasphème, parce que, en tout premier, ma confiance est en Dieu. Et ainsi, pour le reste, eh bien, regardez ce que j'ai fait, dit le Seigneur, et vous verrez. Voilà donc ce berger incommensurable qui est le nôtre. Aujourd'hui, peu de personnes peuvent contester, permettent de contester l'existence historique de Jésus, reconnu comme un homme hors du commun. Et plusieurs historiens donc ont parlé de Jésus, notamment Flavius Joseph, qui mentionne donc cet homme dans ses écrits. Et le témoignage de la parole, qui est universel, le montre aussi de manière incontestable. Et ceux qui ont répondu à l'ordre de Dieu de se repentir et de croire en Jésus apprennent à discerner sa gloire de fils de Dieu. Remplis de joie, ils ont une part commune avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et ainsi leur joie est complète, comme l'apôtre Jean nous le rappelle dans sa première épître. Alors voilà, après avoir donné, détaillé ses premiers titres, je suis la porte, je suis le bon berger, et il continue donc dans le chapitre 11, il peut encore dire, à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Il y a donc ce titre qui est d'une importance capitale, parce que si nous n'avions qu'un espoir sur cette terre, comme le dit l'apôtre Paul, nous serions les plus malheureux hommes. Mais nous avons non seulement un espoir en Seigneur, mais une espérance glorieuse d'être bientôt avec Jésus. La résurrection de Lazare est la démonstration de la gloire de Dieu dans son autorité sur la mort. Et elle est aussi la confirmation par la puissance que Jésus déploie qu'il est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. La résurrection des hommes sera bientôt totale et le dernier ennemi, la mort, sera aboli. C'est la fin de l'histoire ouverte en Éden. Dieu sera tout en tous, comme nous dit l'apôtre en 1 Corinthiens 15. Mais n'oublions pas d'annoncer que les uns connaîtront une résurrection de vie et les autres une résurrection de jugement. Et ainsi nous pourrons donner gloire à Jésus-Christ, le premier des morts, premier-né des morts, celui qui tient les clés de la mort et de l'Hadès, comme l'Apocalypse nous le précise dans le premier chapitre. Et dernier titre que le Seigneur précise, toujours dans le chapitre 11, « Moi, je suis la vie. » Toujours à Marthe et Marie, il donne ce titre, cette vie éternelle qui est donnée à celui qui a la foi. En Jésus, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et pendant sa vie sur la terre, la vie éternelle est donnée aussi déjà sur la terre, car l'expression « quiconque vit et croit » ne peut s'appliquer qu'à la vie présente sur la terre. C'est pendant cette vie terrestre que la foi est possible et qu'elle ouvre accès à la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle s'acquiert ici. Après, comme il nous est dit dans la parole, où un arbre couché est couché après avoir été abattu, il demeure. Et donc, si nous ne croyons pas durant notre vie, eh bien après, il est trop tard. Je suis la vie. Jean témoignera ainsi plus tard de Jésus, nous avons vu, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et dit aussi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il dit encore également, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Donc, tout cela dans son épître, dans sa première épître. Pierre parlera aussi de la nature divine à laquelle nous participons en tant qu'enfants de Dieu. Et Marc, qui croit cela, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et le Christ, va voir la gloire de Dieu. Marie, par son parfum répandu, anticipera l'hommage dû à celui qui est descendu dans la mort. Et donc nous aussi, à la suite de ces trois personnes si attachantes, Marthe, Marie et Lazare, donnons aussi gloire à Dieu et à Jésus son Fils, lui qui est ce bon berger, qui nous précède, qui nous suit, qui est avec nous chaque jour et pour toujours.